À l'occasion du colloque interréunionnais sur la diversité et l'égalité des chances, Cadécole est allé tendre son micro aux différents membres des communautés ENS de Paris et de Lyon pour savoir ce qu'ils en pensent. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à ce nouvel épisode hors série. Je m'appelle Nicolas Morales, je suis auditeur international d'origine colombienne, un master de littérature comparée à l'ENS de Lyon et stagiaire pour Cadécole Web Radio. Quand je présentais mon dossier aux ENS de Paris et de Lyon, je savais qu'il serait très difficile qu'on l'accepte. Même si je considère avoir toujours été un bon étudiant, j'ai dû allier études et travail pendant mon passage à la fac, ce qui m'empêchait d'avoir un dossier irréprochable, et j'étais au courant des critères de sélection très exigeants des grandes écoles. Je n'ai pas été pris à Paris, mais l'ENS de Lyon m'a accepté. C'est une grande chance que de pouvoir étudier ici. Avant de venir en France, j'avais une vague idée de ce que c'était qu'une grande école, parce que ce type d'institution n'existait pas dans mon pays. Chez moi, il y a la fac privée, pour ceux qui ont le moyen de la payer, et ceux qui vont à la fac publique, où la qualité de l'éducation est très souvent compromise, faute de moyens. J'ai fait une licence de philologie française à l'Université nationale de Colombie, l'université publique la plus importante de mon pays, et mes profs, qui connaissaient toutes et tous le système d'éducation français, parlaient de l'ENS comme quelque chose de presque inatteignable, comme des établissements réservés seulement à l'élite de demain.
Vous avez quel statut ?
Étudiant.
Normalien international.
Cela me faisait rêver.
Je fais partie de l'ENS depuis 2 ans. Je suis normalienne étudiante.
Étudier à Normal Sup, être normalien, avoir un parcours pluridisciplinaire motivé par la recherche. Mais je sentais que ce monde était réservé à une élite dont je ne faisais pas partie. Je voyais tout ça de très loin.
Je suis ingénieure d'études pour percer.
Nous sommes personnel de l'ENS, on travaille à la bibliothèque d'Hydro.
Je suis enseignant.
8 ans après, mais voilà donc auditeur international de master à l'ENS de Lyon. Mon statut illustre la diversité au sein de l'école. Mais ce que j'ignorais à mon arrivée à l'ENS, c'est qu'il existe plusieurs statuts et une grande différence entre chacun. Je me présentais toujours comme normalien, mais je ne faisais pas la distinction entre un élève et un étudiant au ENS, et je ne savais surtout pas que mon statut était celui d'auditeur de master. Cette diversité, c'est ce que j'ai essayé d'interpeller en faisant ce micro-trottoir. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, la question de statut n'est pas si simple et cache derrière elle la problématique du colloque sur l'égalité des chances et la diversité tenue en juin dernier dans les différentes ENS de France.
Et vous, vous avez quel statut ?
Doctorant.
Normalienne élève.
Normalienne étudiant.
Je suis normalienne étudiante.
Fonctionnaire stagiaire.
Moi, je suis étudiant.
Et vous ?
Étudiante aussi. Élève.
J'ai un statut étudiant.
Dans mon lycée de Bogota, tous les élèves avaient plus ou moins les mêmes conditions. On venait tous ou presque tous de la capitale et de certains banlieues. Mais quand il y avait un élève d'une autre région, il était reconnu tout de suite. Le lycée est souvent un endroit hostile à la différence. Ces élèves étaient harcelés, discriminés, rien que pour leur accent. Mais à l'université nationale, tout était différent. L'université nationale était comme une petite Colombie. Il y avait des gens de tous les pays, même des régions les plus reculées. À l'université, il y avait toutes les couleurs des peaux, toutes les croyances, toutes les manières d'être et toutes les classes sociales, même si l'admission à l'université se fait par concours, un concours exigeant pour la plupart des lycéens colombiens. C'était une mixité irrévérencieuse et révoltée. Quand je suis entré à la fac, ça m'a fait sortir de ma bulle de confort et tant mieux pour moi, car j'ai compris que le regard de l'autre nous aide toujours à construire ou déconstruire notre propre regard. Mais à l'ENS des Paris et de Lyon, que pense-t-on de l'enjeu de la diversité au sein de l'école ?
Oui, c'est absolument central, d'autant plus dans cette école où, comme tu dis, il y a plein de statuts différents et du coup, il y a une égalité des chances qui est prônée mais qui n'est absolument pas réalisée. Donc c'est très important de se poser ces questions et d'y réfléchir.
Je trouve que c'est un enjeu qui est très très important, surtout dans le système d'éducation supérieure français où il y a encore une grosse partition entre l'université et les grandes écoles. Je trouve ça plutôt important de créer les passerelles et de faire en sorte que les opportunités soient connues de tous et que tout le monde ait l'opportunité d'y accéder.
Je trouve que c'est intéressant. Après, j'ai un peu lu la plaquette du coup de ce truc-là. Il me semble quand même que les étudiants ne sont pas très présents. Moi, j'attends de voir. C'est très vitrine quand même.
Ah oui, je trouve que c'est très important et c'est chouette que l'ENS se pose la question. Notamment, il me semble que c'est en lien avec les autres ENS, qui est cool aussi, parce que c'est un problème général dans toutes ces écoles.
C'est un enjeu surtout en raison du fait que l'école aspire à être une école inclusive et garantir l'égalité des chances, mais c'est un enjeu parce qu'il y a un écart entre la prétention et la réalité parfois.
Oui, oui, je pense que c'est essentiel. Mais surtout en plus qu'il y a eu la fermeture d'accès aux auditeurs qui était extrêmement incertaine à ce moment-là, que les auditeurs puissent rentrer à l'ENS ou non. Donc c'est essentiel qu'il puisse y avoir divers profils dans l'école, pas uniquement des fonctionnaires stagiaires, aussi des étudiants pour le diplôme de l'ENS et des auditeurs pour le master.
Je pense que c'est bien qu'on en discute. Après, je suis pas sûre que ça nous permette de faire changer les choses, si c'est le but.
Écart entre la prétention et la réalité, partition entre l'université et les grandes écoles, la communauté de l'ENS semble être d'accord sur le fait que la problématique de la diversité est essentielle. Pourtant, on sent un esprit de conformisme par rapport à cet enjeu de la part de certaines personnes interviewées. Ils auraient l'impression que rien ne va vraiment changer. Et pour cause, la diversité et l'égalité des chances au sein des grandes écoles remettent en question les différentes voies d'admission, notamment le concours. Les épreuves pour accéder à l'école sont redoutées par tous les aspirants normaliens. Ici, l'enjeu pour les ENS est de maintenir un équilibre entre excellence académique, qui est la marque de l'institution depuis sa création, et diversité des profils.
L'égalité des chances, on en parle à l'ENS, mais bon, au concours, nos chances ne sont pas forcément égales. Moi, je viens d'une petite prépa et ça a été assez difficile, notamment face aux épreuves orales que j'ai ratées. C'est pour ça que j'ai été repêchée sur dossier ensuite. Donc je pense que c'est vraiment un enjeu que l'équipe et le jury devraient prendre en compte.
Alors moi, je ne rejoins pas du tout mes collègues. Moi, je trouve que si t'es bon, t'intègres ENS, c'est tout. Il n'y a pas d'égalité des chances.
Qu'est-ce que ça veut dire que d'être bon? Est-ce vraiment suffisant ou faut-il être le meilleur? La problématique sous-jacente à celle de la diversité est la problématique de la méritocratie. Car l'équilibre entre excellence académique et diversité n'est pas un compromis facile à trouver. Ainsi, la question de la diversité est directement liée à celle des voies d'entrée à l'ENS. Sur leur site internet, les écoles affichent leur engagement envers l'égalité des chances. Mais qu'en pense la communauté ENS? Les voies d'accès à l'école maintiennent-elles ce difficile équilibre entre excellence et diversité? Ou au contraire, privilégient-elles l'un des aspects au détriment de l'autre?
C'est toujours un équilibre difficile à trouver entre justement vouloir prôner la diversité, tout ça. Ça peut être des fois au détriment de l'excellence. Donc oui, c'est difficile de trouver cet équilibre.
Il y a quand même un effort pour la diversité, mais que l'excellence, de toute façon, a été la marque de l'école. Donc finalement, c'est plutôt sur l'excellence que je compte.
Je pense que si je vois il y a cette diversité qui est là, il y a tout le monde. Il faut que les gens travaillent, il faut se démarquer.
Sur les différents profils sociaux ou territoriaux, ça reste majoritairement des personnes parisiennes qui sont à l'ENS. Et donc du coup, je trouve qu'il y a quand même un déséquilibre sur ce point-là.
Je pense que ouais, elle tire vers le haut les gens. Et en termes d'égalité des chances, je pense que ça va aussi. Ouais.
Moi, je pense que oui, parce que sur le campus, on a de nombreuses nationalités qui sont présentes. Même au choix des formations et autres, on a plein de choses qui sont possibles. Donc je pense que c'est vraiment le cas. Enfin, on a totalement cet équilibre, quoi.
Je pense qu'il n'y a pas une grosse diversité à l'école, notamment parce que déjà le concours est un concours qui valorise des gens avec un capital social et culturel très important, mais familial. Et même quand on regarde les personnes prises sur dossier, elles viennent des mêmes prépas que les personnes prises sur concours. On est dans une filière où il n'y a quasiment personne qui vient de la fac. Et même le statut d'auditeur est finalement souvent réservé aussi à des personnes qui viennent de prépa et qui ont le même parcours social et familial.
Vous venez d'entendre des témoignages des ENS de Paris et de Lyon. Il y a des fonctionnaires, des étudiants et des élèves. En préparant ce podcast, je dois vous avouer que je ne m'attendais pas à une si grande divergence d'opinion. Mais l'absence de consensus démontre qu'il s'agit d'un enjeu qui suscite un vif débat dans la communauté. En tout cas, un constat semble clair. Il y a des choses à améliorer sur les voies d'admission afin de favoriser la diversité sociale et territoriale, tout en préservant l'excellence, qui est la marque de l'école. Cela dit, le concours n'est pas la seule voie d'accès à l'ENS. Créé en 1815 par les philosophes libéraux Royer Collard, le concours d'entrée à l'ENS, pensé comme un concours d'entrée dans la fonction publique, fait partie intégrante de l'école depuis ses origines, alors que l'ouverture sociale de l'école, quant à elle, n'est devenue un enjeu que pendant la présidence ENS-PESEL de Marc Mézard entre 2012 et 2022, avec notamment la diversification de recrutement et la consolidation du statut de normalien étudiant. Mais d'où viennent ces étudiants? quel est leur parcours ?
L'ENS s'inscrit dans le contexte général de la fonction publique, à savoir les élèves qui entrent sur concours à l'ENS sont fonctionnaires stagiaires, ceux qui entrent sur dossier sont simplement étudiants. Et ça, c'est le principe général de ce comment fonctionne l'État. Si on veut rentrer en tant que fonctionnaire à l'État, que ce soit en tant que fonctionnaire stagiaire à l'ENS, comme pour toutes les strates de la fonction publique, alors oui, il faut passer un concours et seuls les gens qui ont le concours sont payés par la suite.
Non, je pense que les gens qui rentrent sur dossier ne sont pas très différents des gens qui rentrent sur concours, sociologiquement.
La question de savoir quels sont les profils de ces élèves-là et s'il y a de la diversité parmi ces élèves, elle remonte bien plus haut, à savoir quels sont les élèves qui sont admis en classe prépa, qui peuvent se donner les moyens de payer toutes ces années d'études nécessaires, de payer les hôtels pendant le moment où ils passent les concours. Bon voilà, cette question-là remonte aussi beaucoup plus haut à l'inégalité des chances dès le départ et en particulier l'inégalité des revenus, l'inégalité culturelle au sein des familles, etc.
En l'occurrence, moi je sais que en dehors du système des classes préparatoires, par exemple le fait qu'on puisse candidater à l'ENS sur le statut d'étudiant, c'est-à-dire sur dossier, je sais que c'est pas si connu que ça par exemple dans les universités. Donc est-ce que c'est vraiment un levier de diversité ou est-ce que c'est pas plus un levier pour les personnes qui n'ont pas eu le concours écrit de trouver une autre possibilité d'accéder à l'école ensuite? Pour le coup, je suis pas sûr.
Si vous voulez mon opinion, attention. Il y a une volonté de faire entrer de la diversité dans des parcours qui ne sont pas propices à la diversité. C'est-à-dire que on va vouloir aérer l'ENS, aller chercher des étudiants différents, des étudiants du parcours fac, il y a très peu qui viennent de la fac aussi. Donc là déjà il y a un peu une hypocrisie, on recrute des gens en prépa. Et ensuite une fois dans l'ENS, en fait, on attend d'eux qu'ils aient le parcours du normalien classique, en tout cas une. Ce qui est un problème, parce que si on recrute de la diversité, dans ces cas-là, on accompagne cette diversité-là.
Personne ne décide où naître, ni dans quelle famille, ni dans quel pays, ni dans quelle époque. Pourtant, le nom de famille peut faire la différence entre une vie de confort et une vie de misère. Pour un État dont la devise est liberté, égalité, fraternité, l'un des objectifs devrait être justement de réduire cet écart économique arbitraire qui crée tant de divisions et de haine entre les classes sociales. Certes, il s'agit d'une question qui dépasse largement le cadre du colloque de l'ENS, mais qui en réalité est au cœur du débat de la méritocratie.
On se rend compte que l'école, ça devient plus le lieu des reproductions sociales et des reproductions de leur inégalité que le fait d'aplanir en fait justement ces inégalités. L'ENS, par exemple, même s'il y a une ouverture pour des catégories sociales moins privilégiées, toujours est-il que cette question de l'excellence et des concours, elle est vraiment adressée à des personnes qui, souvent, dès le plus jeune âge, ont été sensibilisées à un environnement, un climat culturel déjà très, très stimulant. Donc, en fait, c'est pas juste quand on arrive au moment des études supérieures qu'on peut régler le problème de l'inégalité sociale et de l'égalité des chances, parce que c'est quelque chose qui se fait tout au long du processus scolaire dès le plus jeune âge, quoi.
Ouais, et après, par contre, moi, je trouve honnêtement, il y a quand même cet aspect prépa qui est assez élitiste. Et donc honnêtement, pas tout le monde a cette possibilité de faire prépa. Et du coup, par rapport à ça, moi je trouve qu'il y a énormément de potentiel ailleurs, par exemple à la fac. Et je trouve ça très bien d'ouvrir les portes à la fac parce qu'il y a beaucoup de potentiel ailleurs et il n'y a pas que la prépa pour accéder aux grandes écoles.
À en croire les interviewés, l'origine du clivage serait surtout d'ordre social et les élèves venant des classes prépa auraient beaucoup plus de facilité à intégrer les grandes écoles, que ce soit en tant qu'élèves, étudiants ou même auditeurs. Alors, si l'enjeu est de réduire les inégalités, pourquoi l'école tient-elle à préserver ses différents statuts? Est-ce vraiment nécessaire de faire la distinction entre un étudiant et un élève?
Ah là là. Je trouve que dans l'absolu, c'est pas grave qu'il y ait des gens qui aient un salaire et d'autres pas. Et je pense que Ulm a travaillé pour revaloriser le statut étudiant en organisant un concours proprement dit. Et en lançant tout un tas de réflexions, même du point de vue de la nomenclature. Pendant très longtemps, on n'a pas été appelé normalien, même si de fait, statutairement, on l'était. Et il gomme quand même la différence de plus en plus entre élèves et étudiants.
Il y a une séparation entre quand on est élève, on est rémunéré, mais on s'engage à travailler 10 ans pour l'État. Donc c'est un contrat qui est connu avant de postuler. En fait, on se doit de respecter ça.
Je pense que la différence n'est pas très utile et devrait être retirée. Je ne comprends pas pourquoi certains ont un salaire et pas d'autres.
Moi, je suis étudiante, donc je ne suis pas fonctionnaire stagiaire, par exemple, je ne suis pas payée. Mais donc l'ENS de Lyon, en m'admettant, m'a dit, une fois que vous êtes dans nos classes, dans les promotions de l'ENS, vous serez traité comme tous les autres étudiants. Il n'y a pas de différence de traitement. Et ça, c'est vrai. Il y a zéro différence de traitement en termes de choix d'orientation, de cours auxquels je peux accéder ou pas, en termes de suivi pédagogique, en termes de suivi tout court dans mon orientation, d'accès aux associations, d'accès aux droits, d'accès à l'ENS. Il y a zéro différence entre moi étudiante et entre quelqu'un de salarié.
Ouais, je trouve ça un peu injuste de donner de l'argent qu'à certains et pas à d'autres. Alors que pourtant, s'ils sont admis sur dossier, c'est qu'ils ont un très bon dossier aussi. Donc c'est... Enfin, je sais pas, je comprends pas trop ce système.
Le salaire demeure. La question que pose le salaire, c'est qui est salarié, qui a obtenu le salaire. Évidemment, il y a un peu aussi là une hypocrisie de vouloir faire entrer des étudiants, de vouloir faire entrer de la diversité, sans se poser... Enfin, j'imagine que la question, elle est posée, mais en tout cas, il n'y a pas de réponse. Moi, j'ai pas vu en tout cas. Pour l'instant, de réflexion sur la question de l'argent, concrètement. Vivre à Paris, par exemple, quand on n'a pas les moyens, alors qu'à côté, effectivement, les élèves, je pense, n'ont pas toujours besoin de cet argent-là.
Et je ne trouve pas qu'il y ait une grande justice à ce que des personnes soient payées et pas d'autres. D'autant plus qu'on a, en plus, la plupart du temps, exactement le même parcours.
Moi, je trouve que, enfin, un peu au contraire, je ne suis pas tout à fait d'accord. Il y a des... Évidemment, on n'a pas le même statut. Quand on est étudiant, on a un peu déconsidéré sur plein de points. On a moins d'opportunités, on a moins de choses. Et même, on doit se justifier quand on dit qu'on est normal de « Ah non, je suis pas payé, je suis pas pareil que les autres ». Mais déjà, ça a d'autres avantages. Genre, on est libre après notre scolarité à l'ENS, donc on peut faire un peu ce qu'on veut. Et comment dire ? Genre, je trouve que c'est une... Genre c'est un statut qui permet à certaines personnes qui n'auraient pas pu avoir le concours de profiter de pas mal d'avantages de normaliens, donc je vais pas cracher dans la soupe quoi.
Je pense que à terme il faudra changer ça.
Lorsqu'on n'est pas payé, lorsqu'on n'est pas stagiaire ou fonctionnaire, non, c'est très différent économiquement quoi. Surtout dans une ville comme Paris où si t'as pas cette base matérielle, c'est presque impossible de vivre, même comme étudiant.
J'espère que le statut élève sera aboli. Et je pense qu'il le sera prochainement parce que je vois pas comment ça va tenir de toute façon sinon. Mais ensuite, en tout cas, vraiment pour ce qui concerne la différence à l'intérieur de l'ENS, il y a un effort de fait vraiment à Ulm, même au niveau de l'équipe pédagogique, mais presque de l'ordre on voit pas les couleurs quoi. C'est-à-dire souvent quand on va voir des gens, ils nous disent « Ah mais moi je connais pas les statuts, ça m'intéresse pas », etc. Bon, le fait même qu'ils mentionnent ça, c'est que déjà il y a un problème et qu'ils sont gênés, mais en tout cas il y a un effort, je trouve. Et de manière générale, moi en tout cas, en tant qu'étudiant, j'ai pas éprouvé, on m'a pas fermé des portes, j'ai pas eu de problème particulier à l'intérieur de l'ENS, en tout cas à faire ce que je veux à cause de mon statut. En fait, au contraire, je pense. J'étais beaucoup plus libre parce que j'étais pas du tout lié à un contrat décennal ou quoi.
Vous l'aurez compris, sur cette question de statut, personne n'est vraiment d'accord. Certains sont pour garder la distinction, d'autres pour l'abolir. Faut-il en déduire qu'il faut garder le statut quo ? Quoi qu'il en soit, ces débats rappellent que la précarité de certains jeunes est un fait réel qui pose problème dans l'égalité des chances. Quelques témoins proposent des alternatives afin d'arrondir les angles et essayer une fois pour toutes de garantir un accès plus large aux grandes écoles et une amélioration de la vie étudiante, qu'on soit normalien ou pas.
Au-delà même de simplement le cadre de l'ENS en soi, ça pose la question de est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en place un revenu étudiant généralisé en fait pour toutes les personnes qui étudient en France, parce que c'est vrai que par exemple il y a certaines universités qui ont des partenariats avec les écoles d'excellence comme l'ENS, comme Polytechnique ou des choses comme ça, mais finalement ça pose la question voilà, de est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire du côté d'un revenu étudiant universel, enfin voilà.
Il y a d'autres alternatives comme par exemple la revalorisation de la bourse pour tous les étudiants qui ont été proposées par certains syndicats étudiants ou encore enfin, les propositions de salaire étudiant enfin, pour tous. Enfin, ça peut sembler un peu utopique, voire carrément utopique, mais je sais que c'est le cas dans certains pays nordiques.
Cette émission touche à sa fin. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Vous pouvez retrouver les autres épisodes hors série sur le site Cadécole. À la réalisation, Nicolas Morales, à la régie et au mixage, Sébastien Boudin et Florence Sauvebois. À bientôt sur Cadécole.